RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Restez avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, RMC c'est la radio, RMC Story c'est la télé. Aujourd'hui notre trio de GG, Emmanuel Dubillet, l'entrepreneur, Laura Barton-Martinez, la sophrologue, Zora Bitant qui est cadre dans la fonction publique. On attaque la deuxième heure des GG avec vous bien sûr. On vous attend au 32-16, notamment là tout de suite, pour parler de quoi? Bah, parler de la cyberattaque et d'un gouvernement qui est quand même humilié par le groupement. Ils sont deux apparemment. Le duo de pirates informatiques Zero Bytes.
Pardon. On imagine sans peine l'état d'esprit de la personne qui apprend que son revenu, son adresse, son courriel, c'est un nombre d'informations liées à sa situation fiscale, le revenu fiscal de référence par exemple, sont potentiellement à la portée de tout acteur malveillant.
Je viens vous demander.
À chacune des personnes concernées, je tiens à présenter nos excuses. Parce que ce qui est arrivé est insupportable pour les Français et non seulement comprend leur colère, mais je crois pouvoir dire que cette colère, avec la directrice générale des finances publiques, nous la partageons.
Pardon,
David Amiel, le ministre des Comptes Publics, présente ses excuses. En fait, il demande pardon. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que le duo Zero Bytes, en fait, il revendique sur les réseaux sociaux. Et apparemment, ils sont assez faciles à trouver. Ils vont tomber, sûrement. Hein. Ils vont se faire attraper. Ils sont deux personnes. D'après ce que disent tous mes confrères, et là, BFM TV, il y a quelques heures, qui a réussi à les joindre. Ils ont l'air assez jeunes dans leur mode d'expression. Et ils se justifient en disant, il y a des failles de sécurité. On a voulu voir. Et nous, derrière, on a piraté les données par millions, hein. Par millions, ce qui est un acte répréhensible, un acte criminel. Ils seront poursuivis pour ça. Ils risquent pas grand-chose. Ils risquent 2 ans de prison, je crois, s'ils les feront.
Bah non.
Et on les revend sur. Ensuite, on les revend quasiment à ciel ouvert, quelques dizaines de milliers d'euros. On a des acheteurs. Et ensuite, ça part. Et malheureusement, nous, si on est dans le lot, on est victime. Est-ce que la France est humiliée dans cette affaire? On a quand même, aujourd'hui, il faut pas l'oublier, c'est la troisième attaque que subit l'éducation nationale, quand même. Là, on a une attaque sur les cadastres, on a une attaque sur les particuliers, on a une attaque sur les successions, sans oublier l'attaque qu'il y a eu sur l'Agence nationale des titres sécurisés, l'attaque qu'il y a eu sur l'Office de l'immigration, l'attaque qu'il y a eu sur France Travail, l'attaque qu'il y a eu aussi sur les différents CHU. Donc, la France n'est pas protégée. Est-ce que la France est humiliée? 32-16 pour en parler. Est-ce que vous avez honte, vous-même, oui. Emmanuel?
Alors, Alain, moi, je reprends ton propos de tout de suite. On comprend pas. Tu dis des confrères journalistes sont contactés. Oui. Les hackers, mais ils sont pas arrêtés, ces gens-là.
Ah bah c'est pas à mes confrères de les arrêter, c'est à la police.
Bien sûr que c'est pas aux journalistes.
Ils sont en train de les chercher parce qu'après il faut les localiser.
Comment des journalistes peuvent entrer en contact et dialoguer avec eux
sur les réseaux sociaux et leur poser des questions.
Et la police n'est pas capable de les arrêter. Ensuite, tu citais le risque, semble-t-il, pénal actuel maximum de 2 ans. C'est complètement inadapté avec la gravité des faits. Donc plutôt que de se pencher sur des considérations moralisatrices, de dire on est humilié, etc., on est les plus attaqués, il faudrait surtout se défendre judiciairement et montrer qu'on est capable de répondre de manière très agressive.
Tu vois, ce groupe Zero Bytes, c'est-à-dire le duo, il y a 48 heures, ils ont apostrophé directement le ministre de l'Éducation nationale sur X en disant « On a absorbé 346 millions de lignes de chez vous il y a quelques semaines. Vous m'aviez détecté, mais vous ne m'avez pas coupé. Je suis donc resté infiltré sous vos yeux. » Voilà. Et ils ont aussi glissé un message à la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, en racontant le vol de données avec un émoji mort de rire.
Oui, mais les ministres et les administrations ne sont que dans le curatif et pas dans le préventif.
Comme d'habitude.
Parce que les politiques changent, etc. Ils sont débordés, ils font de l'événementiel, des inaugurations, de la presse et autres médias. Et un chef d'entreprise, c'est toute la différence, en tout cas un chef d'entreprise qui réussit dans sa boîte. Il se réveille le matin, il se pose des questions sur ses risques, sur ce qu'il faut faire, y compris pris dans ce qui n'est pas utile pour développer l'activité ou générer du chiffre d'affaires, mais aussi pour se préserver de quelque chose qui pourrait lui tomber sur le coin de la gueule. Là, l'État ne le fait pas. Il y a pourtant des administrations complètes en charge de cette défense informatique. Il y a une défaillance parce que ces gens-là sont payés, ils ont tous les moyens pour se mettre au niveau des confrères internationaux. Les excuses du ministre sont quand même acceptables, mais le problème est très grave.
Ah bon ? Ce que nous racontent les experts informatiques, c'est-à-dire qu'on est dans la sous-estimation du risque, dans la sous-évaluation du risque, si tu veux. Là où toi, aujourd'hui, quand tu valides une transaction sur Amazon, tu reçois un SMS que tu dois faire valider rapidement avec la banque, tu as des doubles, voire des triples vérifications, eh bien, elles n'existent pas. Et là, comment ils sont rentrés dans les administrations en utilisant, si tu veux, une identité, c'est-à-dire via un faux mail, tu vois, et puis ensuite, hop, c'est la porte d'entrée, ils ont le mail de la personne qui n'a pas de double authentification ensuite, et mais ils rentrent et ils piquent les données, Laura.
C'est extrêmement simple. En ce qui concerne les successions, en fait, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu en tableau Excel, ils ont fait un croisé dynamique, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans le logiciel, ils ont demandé au logiciel, donne-moi toutes les successions qui posent problème en ce moment, ça leur a sorti le nom, l'adresse, tout, ils ont tout. Moi, ce qui me fait doucement rire, c'est qu'on s'excuse, mais il a quand même oublié de dire, notre cher ministre, qu'ils se sont rendus compte de la supercherie parce que les hackers ont dit, au fait, les gars, on est là depuis le début, donc c'est pas que, pardon, on est en train de se rendre compte que notre pays, sur tout ce qui est cyber, informatique et IA, on est obsolète. On est, mais à la traîne, ce n'est pas permis. On se rend compte que pour chiffrer l'argent des entrepreneurs de ce pays, on est capable de multiplier les techniques informatiques et IA de manière incommensurable pour nous prendre du pognon. Il n'y a pas de problème. Et pour nous protéger, là, c'est catastrophique. Pardon, mais à tous les niveaux, dès que ça touche l'informatique, c'est catastrophique. Essayez, là, avec tout ce qui se passe, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont en train d'essayer de regarder pour leur retraite. C'est imbitable le truc, on comprend rien, ça va à deux à l'heure, rien n'est facile dans ce pays. Moi je ne comprends pas comment à l'heure du pays que l'on est, on ne soit pas souverain sous le plan d'une IA et que notre pays ne soit pas régi. On parlera peut-être aussi de l'IANA, si l'ensemble des informations étaient croisées par une IA, je comprends que nos enquêteurs ils soient pas assez nombreux, mais on a l'IA qui existe maintenant, comment ça se fait qu'on est encore un pays archaïque à ce point-là? Et ça va ne faire que croître, on va avoir des hackers de tous les côtés, on est protégé en rien.
Surtout qu'on nous pousse à tout dématérialiser, que très bien, là,
mais
très prochainement
France
va arriver
Connect.
La facturation.
Comment c'est facile de se connecter à France Connect.
La facturation électronique pour les entreprises.
Mais France Connect, ouais. Comme c'est facile de se connecter à France Connect. France Connect, c'est votre identité A à Z. Ouais, Vous faites un clic, mais n'importe quel hacker, il peut y rentrer.
Sauf qu'on peut te demander aussi la reconnaissance faciale, mais ça, c'est pour moi. Moi, ce que je veux, c'est que France Connect ait les pare-feux.
Mais c'est ça.
Et tout ce qu'il y a de plus pointu pour pouvoir se protéger et protéger ces données.
On a envoyé les entreprises qui étaient en train de croître. On n'a pas aidé nos génies de l'informatique en France. On les a envoyés dans les autres pays parce qu'on est tellement asphyxié par la fiscalité que dès qu'on a un mec qui est intelligent et qui a les moyens de se faire du pognon, il se casse. On envoie tous nos cerveaux ailleurs. Donc, faut pas s'étonner que après, on soit les dindons de la farce. C'est logique.
Benoît. Attends, je voudrais qu'on donne la parole à Benoît. Il est informaticien. Bonjour, Benoît. Bienvenue. Il est dans le Loir-et-Cher. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît? Est-ce qu'on est humilié là avec ces cyberattaques?
Humilié pour. Votre question concerne beaucoup les hackers. Moi, je vais être très clair sur le sujet. Je suis plutôt du côté des hackers.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, tout simplement, en fait, le gouvernement, c'est eux qui gèrent en fait leurs données, c'est eux qui gèrent leur système administratif et ainsi de suite pour faire la gestion de ces données-là. Je les défends. Pourquoi ? Parce que je cautionne absolument pas le vol de données personnelles, ou la destruction. Mais parce que je pense qu'ils mentent pas, qu'ils mettent parfois le doigt sur des problèmes que nos institutions ne veulent pas voir. On nous parle toujours de la cyberattaque et du hacker comme le seul problème, mais pourquoi ne parle-t-on pas des failles qui ont permis l'attaque?
C'est ça que ça met au jour.
Qui possèdent les données de millions de Français peuvent-elles être aussi vulnérables? Voilà, c'est aussi un sujet qu'il faut entendre en fait. Et surtout.
Mais pourquoi est-ce que c'est sous-dimensionné? Pourquoi alors, Benoît?
Je pourrais pas vous dire plus, mais je peux vous assurer aujourd'hui que des failles, il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, ces failles-là, elles sont ouvertes, mais c'est une boîte de Pandore, en fait.
Ça veut dire, je peux vous poser une question à la question grande gueule. Vous êtes informaticien. Ça veut dire, si demain, vous dites, je vais pénétrer une administration, je vais essayer de la hacker, vous pourriez le faire facilement?
Ça se ferait.
Voilà.
Ça se fait. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus facile avec les IA.
Vous avez des tutos.
Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui ont 13 ans. Des jeunes qui ont 13 ans aujourd'hui qui arrivent à faire du codage, qui arrivent à accéder à des sites complètement cryptés. Vous avez des vieux aussi. Il n'y a pas que des jeunes.
Mais je rappelle d'ailleurs, Benoît, pour aller dans votre sens, que lorsque l'Agence nationale des titres sécurisés, c'est-à-dire l'agence qui fait les passeports et les cartes d'identité, a été piratée, on s'est aperçu que le pirate, il avait 15 ans. Voilà. Il a été interpellé. Il avait 15 ans.
Je vais vous dire un petit mot sur la NTS. La NTS n'est pas du tout fiable aujourd'hui. La NTS, c'est une vraie passoire. C'est une vraie passoire, la NTS.
C'est quoi
quelque chose en fait qui nous a été imposé.
L'agence
nationale
des titres sécurisés.
C'est une passoire. C'est juste une grande passoire. Et par contre, voilà, on nous parle toujours de cyberattaque et du hacker comme le seul problème.
Non, mais je suis d'accord avec vous.
On est
d'accord, Benoît, parce que ce duo Zero Bytes qui a attaqué, qui a hacké, ce qu'il met en lumière, effectivement, alors c'est une infraction, mais c'est le manque de sécurité de la part de l'administration. Moi, c'est ça que je trouve dingue, c'est qu'aujourd'hui, comme on le rappelait, c'est s'ils eux-mêmes ne l'avaient pas revendiqué, ils s'en seraient aperçus sur le tas. Et surtout, ils n'auraient pas communiqué. C'est ça qui est fou, c'est que pendant on nous l'a pas dit officiellement, quoi.
Mais personne vous dira rien de toute façon parce que le gouvernement se protège.
Non mais
le gouvernement est sans cesse en train de se protéger derrière des mensonges. Le problème qui se trouve aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le nombreux hackers qui se trouvent aujourd'hui en Europe risquent de mettre à jour des données un peu sensibles au niveau des présidentielles de 2027.
Oh là là.
Et ça, malheureusement, ça concernera vraiment le gouvernement. Ça concernera plus les données personnelles.
Ah, mais vous avez raison.
Au sujet des entreprises. Je tiens à dire un petit mot au sujet des entreprises. Les entreprises, des petites entreprises, des petites PME ou autres, elles ne risquent absolument rien. Il n'y a rien à voler chez eux, en fait. Il n'y a absolument rien à voler
pas
chez eux.
Elles
ne risquent absolument rien. Par contre, des gros groupes comme Total ou des groupes financiers comme... la Caisse d'épargne, Crédit Agricole et bien d'autres. Hein. Ceux-là, par contre, ont des choses à mettre au jour et qui sont mais tout à fait...
Oui, il y a des fichiers clients.
Ça compte dans notre déclassement.
Vous en parlez de manière sympathique et posée, mais on ne peut pas vous suivre. C'est quand même une nouvelle délinquance.
Une nouvelle délinquance de quoi? Vous mettez en fait le hacker en fait direct délinquant.
Il commet un crime.
Le gouvernement, c'est lui aussi le délinquant, monsieur.
Non, le gouvernement, il n'est pas délinquant. Qu'il soit obsolète, mais il n'est pas délinquant.
Il est responsable des données qu'on lui confie. Moi, je suis désolé.
C'est pas de la délinquance, c'est de l'incompétence.
Il a sa responsabilité aussi dans tout ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que
c'est pas de la délinquance, c'est de l'incompétence.
Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que ça compte dans notre déclassement.
Vous confiez votre patrimoine à la banque. Vous le confiez à la banque. Vous le sécurisez. Vous êtes au courant que ce que vous sécurisez doit être protégé par la banque.
Ah, mais d'accord, mais c'est pas de la délinquance, c'est de la compétence.
Donc là, sur toutes ces données qui ont été volées, il y a eu un manque, il y a eu une faille.
D'accord.
Le hacker, il est pas rentré comme ça en toquant à la porte.
Vous avez le droit d'aller chez les gens. Si la porte est ouverte, vous pouvez aller voler.
Non, mais
chez
ce
les
que
gens.
Dit Benoît, aux États-Unis. Si tu veux, je pense que les hackers qui seraient attaqués à une agence fédérale...
Ah bah, c'est chaud pour eux.
Ça va être chaud et ça serait un crime fédéral. Je peux
mais
dire que là, à mon avis, ils prennent perpète.
Mais
c'est pour
mieux.
Ça que nos peines ne sont pas justes.
Après, la vraie question, Alain, c'est de dire... Tu confies l'État est censé protéger tes données et l'État n'assure pas la sécurité de tes données. Et toi, en tant que citoyen, tu as des normes et des conditions de sécurité où on te fait zéro cadeau. Tolérance zéro. Oui, t'as une piscine, t'as pas foutu une alarme, t'es mort. T'as une piscine, t'as pas foutu. Non, mais oui, en fait, une entreprise, elle a pas mis les conditions de sécurité.
T'avais pas de barreau à tes
fenêtres,
c'est pour
donc, la vraie question aujourd'hui, c'est de se dire en tant que citoyen, moi aussi, est-ce que je peux opposer à l'État, j'ai eu un employé incompétent, donc il a pas fermé, il a pas rempli les papiers au bon jour. Moi, je plaide, je m'excuse. En fait, nous aussi, on peut s'excuser, parce que là, c'est énorme quand même. Et ce que disait Laura est encore plus grave. C'est-à-dire que quand on voyage un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a des nouvelles technologies qui sont entrées dans certains pays où il y a beaucoup de choses qui sont facilitées. On parlait la dernière fois des péages où tu passes et t'as plus de barrières. Et nous, on en parle ici en 2025. Alors, vous comprenez, au Portugal, en fait, on est en train de se tiers-mondiser, mais à une vitesse incroyable. Ce tiers-mondisé, c'est quoi? C'est quand t'arrives à l'hôpital et que la nana, elle te sort une feuille, un papier pour prendre ton nom et tout. Et là, tu fais, waouh, punaise, 1960. Oui, parce que le truc, il marche pas pour l'instant, etc. En fait, tout est archaïque. Tout est archaïque, c'est une dinguerie. Et pourquoi ça l'est? Parce que depuis des années, nous avons des gens qui nous gouvernent qui sont des politiques, des politiciens. Ils ont peur de s'entourer de gens brillants. Ils ont peur d'aller chercher la société civile qui pense, qui réfléchit, qui est ingénieur, qui est doué, qui est dans la recherche, qui est dans la technologie. Des mecs qui font bac plus 10, à qui on file 1800 balles quand ils commencent. On a peur parce qu'on sait jamais s'il brille, il va enlever ma capacité à moi. En fait, on gouverne pas pour le bien de son pays. On gouverne pas pour faire prospérer son pays. Non, regarde, l'IA, elle a raison, Laura, l'IA, mais punaise, t'as des pays, c'est incroyable, t'arrives à l'hôpital, tu dis à un robot ton nom, il sort ton dossier, pendant ce temps-là, le médecin, il s'occupe que de toi. C'est-à-dire que on en est là, c'est la quatrième dimension. Ici, t'arrives dans la ruralité, t'as des fosses sceptiques, les panneaux pas enterrés, des fils électriques partout, mais en fait, c'est les paysages lunaires. Et tu te dis, sur plein de pans, la cybersécurité, l'accès aux technologies, on est souverain de rien du tout, et pire, on pédale. Les jeunes, ils se barrent, ils partent.
On a Alain qui veut en discuter avec nous, qui est responsable commercial, qui travaille dans les télécommunications. Bonjour Alain.
Bonjour les GG, bonjour Alain.
Comment vous réagissez à ces attaques multiples? Un ministre qui présente ses excuses, c'est suffisant ou pas?
Écoutez, je vous entends parler d'IA, vous avez juste oublié un paramètre à prendre en compte et qui va prochainement arriver, c'est le quantique. Donc ça veut dire qu'on va aller encore un peu plus vite. Aujourd'hui,
double tsunami, double rafale.
Allez-y.
Je rejoins tout à fait ce que disait Zora à l'instant. Malheureusement, on ne met pas les moyens. Alors, on est capable de nous taxer sur beaucoup de choses. Les impôts augmentent, les taxes, on sait les inventer. Et on a pourtant de très très bons ingénieurs qui seraient, certainement plus performants que les services qu'on utilise aujourd'hui.
On fait appel à des... Quels services on utilise aujourd'hui justement pour qu'on soit dans cette sous-performance?
Alors, je vais vous faire une confidence, je veux tirer le nom. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise qui intervient dans la cybersécurité pour le compte des ministères. Il y a eu une attaque il y a moins d'un an à peu près. Alors, l'entreprise a été réactive, mais pour autant, la faille était là, elle était présente. Sinon, l'attaque n'aurait pas abouti. On ne sait pas aujourd'hui, on est dans la norme, on est dans la lenteur administrative, on n'est pas dans la réactivité et même dans l'anticipation. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on attend que les choses se passent et puis après, on communique. Mais ils ne sont jamais responsables de rien. Donc, finalement, c'est pas grave. On nous raconte. Je voudrais juste prendre cette phrase, mais c'est la phrase type des éléments de langage des politiques. On vous protège. On protège les Français. Oui. Finalement, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, ils protègent de rien, si ce n'est leur petit poste, au lieu de penser vraiment l'avenir et d'anticiper. Et je rejoins Zora, on est en train de se tiers-mondiser de plus en plus à tous les niveaux.
Ce que je ne comprends pas, vous voyez, c'est qu'ici, on est dans une... Par exemple, je prends notre entreprise aujourd'hui. On a tous les ans quasiment un questionnaire à remplir, nous les employés, sur la menace cyber. Vous voyez, on a une formation de menace cyber. C'est un peu fastidieux, mais ça vous met en alerte. Quand on ouvre nos mails, on a un code d'authentification quasiment à chaque fois. Ce qui n'empêche pas sûrement des tentatives d'attaque hein, de nos sites, de nos serveurs. Mais on voit que nous-mêmes, si vous voulez, on nous prévient, on a ces doubles authentifications et autres. Pourquoi est-ce que ça, on ne les a pas, enfin, d'après ce qu'on nous dit, dans l'administration? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, alors qu'ils ont des données qui sont encore plus sensibles qu'ici dans notre propre entreprise, Alain.
Je vous rappelle qu'on vous oblige aujourd'hui à utiliser les services de l'État, vous oblige à passer par du numérique de plus
c'est
en
vrai.
Plus.
Oui.
Ça, c'est une obligation. Aujourd'hui, vous avez quasiment plus de services publics du quotidien. Malheureusement, encore une fois, il n'y a pas d'anticipation. Vous venez de parler de la double authentification. C'est quasi une norme aujourd'hui qui est mise en place pour tout le monde, y compris même pour le commun des mortels dans son quotidien. ben voilà, vous découvrez que bizarrement, au sein de l'État, alors que eux détiennent quand même toutes les informations
les plus sensibles sur les citoyens, bien sûr.
Au sein de l'État, on ne le fait pas. Rendez-vous compte du désastre dont on est en train de parler, du retard.
Et je vous ai surtout les conséquences que ça va avoir pour des millions de personnes qui vont faire l'objet de chantage.
Le pire, c'est l'hameçonnage.
D'usurpation d'identité.
Tu reçois un mail avec ton montant fiscal de référence, ton nom, ton prénom, ta date de naissance, et on te demande de cliquer sur un lien, bah tu y crois.
Mais surtout là,
il y a toutes tes données.
C'est ça, surtout.
C'est grave.
Surtout là, comme.
Bah oui.
Et là, tu dis, ah bah oui, c'est moi. Ah oui, c'est ça. Ah bah c'est mon numéro.
Bah oui.
C'est ça. Tu auras le logo de l'administration qui sera répliqué.
Bah oui.
Donc en fait, oui, c'est grave. Raison. Et puis derrière, boum, bah, c'est.
Pire n'est jamais sûr. Là, on décrit des choses qui ne sont pas encore réalisées. Et moi, je voudrais appeler un peu d'optimisme quand même. On ne peut pas dire que la France, tout va mal, que ton état dernier des Mohicans. Il faut quand même avoir d'optimisme. Il y a des élections présidentielles qui arrivent. On peut certainement améliorer.
Il va falloir prendre un virage à 360 parce que là, on est mal barré en ce moment.
Tu vois, le site de cybersécurité Surfshark a publié cette étude en juillet. 43,5 millions de comptes compromis au premier semestre. C'est en hausse de 62% par rapport à la deuxième moitié de 2025.
Et pourquoi tu n'as pas un hacker qui fait sa peine de prison dans les services de cybersécurité de l'État français parce et qui s'occupe pas de refaire
sûr, il faut être sûr de le retourner et que derrière, si tu veux, il ne joue pas un double jeu.
On vire une agent russe de CNews et on livre toutes tes données à des hackers. En fait, c'est ça.
Dont on va s'apercevoir qu'ils habitent peut-être du côté de Tours et qu'ils ont 19 ou 20 ans.
Et c'est ça la France.
Merci Alain d'avoir été avec nous. La cybersécurité, est-ce que la France est humiliée avec ces affaires de cyberattaques en chaîne? Oui, totalement, à 96%. Dans un instant, une constante, ça c'est l'augmentation tous les ans du tabac. On va arriver au prix au paquet à 13 euros. Mais est-ce qu'en augmentant régulièrement le prix du tabac, ça vous pousse à arrêter de fumer ou ça vous fait acheter vos cigarettes en contrebande? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. On a 10 minutes pour ça. Vous nous appelez au 32-16 sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules, c'est avec vous, c'est au 32-16 que ça se passe. Merci de nous suivre, merci d'être là au cœur de l'été avec les GG, avec les grandes gueules. Vous faites le 32-16 pour réagir à toutes nos discussions avec Emmanuel Devilliers, l'entrepreneur, avec Laura Vartan-Martinez, la sophrologue, et Zora Bitan, qui est intervenante sociale auprès des jeunes, auprès de la jeunesse. De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les grandes gueules, là maintenant, à 11h-20, de l'augmentation du prix du tabac? Ça, c'est une constante, c'est régulier. On a une augmentation au 1er septembre. On en aura une ensuite au mois de novembre. L'objectif du gouvernement est d'arriver à 13 euros le paquet. 13 euros le paquet, pourquoi? Pour nous dissuader de fumer. Est-ce que ces augmentations régulières sont efficaces? Est-ce qu'effectivement, elles vous dissuadent et elles vous poussent à arrêter de fumer? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules.
Demain, j'arrête de fumer. Demain,
Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur la stratégie de la petite augmentation. Tu sais, on ne se dit pas d'un coup, on va passer le paquet à 15 euros ou à 20 euros. Je ne sais pas si ce serait efficace ou pas, mais on est plutôt sur cette augmentation lente où finalement, tu t'en rends peut-être même pas compte quand tu es fumeur. Moi, j'étais fumeur, j'ai terminé un paquet par jour. J'ai arrêté il y a très longtemps maintenant. Crois-moi, ça a été un combat, ça a été une sacrée victoire. C'était vraiment une lutte. J'ai pris du poids.
T'as fumé combien d'années?
J'ai fumé de l'âge de 15 ans à l'âge de 35 ans. Donc j'ai fumé 20 ans. Après, quand j'ai arrêté, tu compenses. Quand tu compenses, tu grossis. J'ai monté à pas loin de 90 kilos à ce moment-là, tu vois. Mais
c'est pour ça que t'es devenu si beau.
Je te parce que c'est l'arrêt de la cigarette. Mais c'est vous fréquenter, vous côtoyer, c'est les grandes gueules depuis 20 ans aussi. Cela dit, sérieusement, quand on regarde, je vous dis, c'est des petites augmentations. Par exemple, là, le paquet, il va passer de 11,20 € à 11,50 €. Prochaine augmentation, le 1er novembre. Mais ça se déporte notamment aussi vers le tabac à rouler. ça se déporte vers ce que Laura Vartan-Martinez a dans la poche, je sais pas laquelle d'ailleurs, ça se déporte vers la vapoteuse. Alors est-ce que c'est plutôt une bonne chose? Est-ce que ça vous pousse vraiment à arrêter de fumer? 32-16 pour en parler avec les... C'est le prix qui t'a fait arrêter ou pas, Laura? Ou qui est en train de te faire arrêter?
C'est les deux. Je vais être complètement honnête, la vie est devenue plus chère et quand j'ai eu ma petite fille, je me suis dit je peux plus mettre ce prix-là. Enfin, je peux pas égoïstement, je me tue la santé, mais ça à la limite c'est mon problème. Je peux pas mettre ce prix-là et je prive ma fille d'autre chose. Donc il y a le prix et il y a la santé. Et moi je suis pas contre. Bizarrement, je vois plein de gens autour de moi, notamment ma grand-mère. Bon, alors il y a eu je sais même plus, je crois que c'est 47 années de tabagisme, mais elle m'a dit là, ça monte trop, je peux plus me payer et ma grand-mère ne fume plus. Donc oui, on peut pas le nier. Il y a de moins oui, mais en ça moins.
Du coup, t'es passé sur la vapoteuse.
Oui.
La vapoteuse, c'est.
Ça n'a rien à voir le prix. Hein.
C'est combien?
Bah, je sais pas, le liquide, c'est quoi? C'est 4 euros, un truc comme ça. Non, c'est.
Et tu touches plus de cigarettes?
Non. J'en ai, voilà, là, pendant les vacances, j'en ai fumé 3 à des soirées. Pour aller. Comme un verre d'alcool, c'est devenu un truc occasionnel.
Zora. Il faut taper au portefeuille,
mais il y a mieux encore. 2018, moi, j'ai arrêté. Et en fait, il y a une grande hypocrisie là aussi, parce que on met le paquet de cigarettes à 15 euros, 20 euros. C'est vrai que ça dissuade. Déjà, à 11 euros, ça dissuade. Il y a des gens comme Laura aussi qui se disent, bon, ben voilà, je peux décemment pas refuser des choses à mes enfants et à côté de ça, mettre 12 balles dans un paquet de cigarettes. Mais il y a une grande hypocrisie française. D'abord, je considère que quand on fume, ça ne regarde pas que nous, parce qu'après, quand on est malade, ça coûte cher la sécu. Et un cancer, c'est une blinde. Hein. Ça, on est pris en charge à 100% et c'est pas rien. Donc, mais en même temps, il n'y a pas que le tabac, il y a aussi ce qu'on mange, il y a la pollution, etc. Mais là où ça pose un problème, c'est toute l'incitation culturelle en France à la pratique sportive. Alors, heureusement, la génération de jeunes qui arrive est nettement plus sportive que notre génération à nous. Mais on voit bien que, en termes de prévention, de rapport à son corps, de rapport à sa santé, c'est pas une culture en France. Il y a des pays où prendre soin de soi, aller faire du sport, avoir des infrastructures sportives libres, dehors, partout, sur les plages, dans les rues, etc. C'est culturel, donc ça donne envie. Donc forcément, ça t'incite pas à fumer, et donc forcément, tu te détournes de tout ce qui pourrait faire du mal à ton corps. Donc là, on te dit, on fout le paquet de clopes à 20 balles, ok, bah tu vas restreindre, mais ça veut dire que aussi de l'autre côté, il n'y a pas de prévention, il n'y a pas d'incitation. C'est pas culturel en France, l'incitation à prendre soin de soi. Moi, quand je suis allé dans certains pays, dont Tel Aviv par exemple, et ben des infrastructures sportives, il y en a partout dehors. Tu peux t'arrêter, faire ta musculation, ton vélo. Oui, mais parce que en France, il y a aussi le civisme. Tu fous des infrastructures sportives partout parce que ça donne envie aux gens de prendre soin d'eux et donc de pas fumer, de préserver leurs poumons, etc. Mais est-ce que elles vont rester elles vont pas être saccagées?
Ouais, alors, très honnêtement, Taverny, il y en a partout.
Oui, mais Taverny, c'est Florence Portelier, maire, pour qui la culture et le sport sont érigés en valeur d'émancipation et de liberté.
Je suis très fière de ma mère.
Bah voilà. Mais là, t'es dans un cas exceptionnel. Mais moi, je te parle sur le territoire national.
Un pharmacien qui veut intervenir dans les GG. Il s'agit de Vincent, puis je te donne la parole après, Emmanuel. Vincent, qui est du côté de la Haute-Garonne. Bonjour, Vincent.
Bonjour à tous.
Pharmacien tabacologue, c'est ça?
Exactement.
Ça veut dire quoi?
Pharmacien tabacologue. Eh bien, je suis pharmacien, docteur en pharmacie. J'ai fait un DIU de tabacologie.
D'accord.
Pour aider au traitement de l'addiction.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un lien là, avec ces augmentations régulières, l'augmentation du prix de la cigarette? Est-ce que ça fait arrêter de fumer?
Alors oui, ça fait arrêter de fumer. On a eu le cas aussi dans d'autres pays européens, l'Irlande, où le paquet de cigarettes, alors ça a dû encore augmenter, il était à 20 euros. Hein. Il y a très peu de fumeurs dans la rue quand vous allez en Irlande, je ne sais pas si vous avez déjà été. En France, ça aura un impact, mais ça a un impact chez les patients qui sont peu addicts. En fait, c'est ça qu'il faut mesurer. On n'est pas tous pareils. On a une addiction qui est différente d'une personne à l'autre. Et donc, du coup, il y a des personnes, ça va les motiver à arrêter de fumer, parce que c'est la motivation. Il faut savoir que la volonté, la plupart des fumeurs veulent arrêter de fumer, mais c'est la motivation. Et c'est vrai que ça peut être un moteur de motivation de l'augmentation du tarif. Mais pour les personnes qui sont très addictes, malheureusement, là, il n'y aura pas d'impact. Ici,
vous posez une question, Vincent? Oui. J'avais lu un livre très intéressant qui d'ailleurs a été un best-seller en la matière, le livre d'Alan Kerr, la méthode simple pour arrêter de fumer. Et lui, il dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit que l'addiction à la nicotine, proprement parlée, elle n'est pas si importante que ça, et qu'en fait, le mental joue un rôle beaucoup plus important. Et qu'en fait, on est la cigarette, on n'a pas affaire à la cocaïne ou à l'héroïne, et que lorsque le mental est bien construit pour arrêter, et ben en fait, il arrive à parce que il paraît que c'est l'addiction à la nicotine, elle c'est 5 jours quoi. Ça, on n'a pas de la nicotine dans le sang pendant je sais pas
combien de temps. Regarde les femmes enceintes. Moi, j'ai eu une facilité à poser ma clope enceinte.
Bah voilà, donc ça prouve.
À peine j'ai arrêté d'allaiter, allez hop.
Vincent.
Oui, alors Alan Kerr, c'est vrai que ça a été un best-seller. Il a en fait, il a juste écrit un livre sur lui, comment il a fait pour arrêter de fumer.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est très bien parce que ça a motivé des gens à arrêter de fumer. Ben. Par contre, il y a pas d'études sur combien de personnes ont arrêté de fumer grâce à Alan Kerr, mais c'est vrai que ce qu'il propose lui, n'est pas forcément en adéquation avec les études. Et en tant que tabacologue, ce qui marche beaucoup et ce qui est beaucoup laissé tomber, c'est les patchs. Et contrairement à ce que Alan Carr peut dire, c'est l'addiction à la nicotine, c'est nos récepteurs nicotiniques du cerveau qui ont besoin de nicotine. Et comme je vous dis depuis le début, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui vont pas avoir besoin d'avoir de substitution, et il y en a qui vont avoir 3, 4, voire
des. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le prix, mais une fois qu'on a pris la décision en se disant c'est cher, je peux pas continuer. Ensuite, il y a la manière personnelle dont on gère.
Non, mais il y a un autre chiffre qui est chimique. Non, mais la question, Vincent, c'est du point de vue chimique. La nicotine, quand on pose une cigarette, la nicotine, elle reste dans le sang combien de temps? Et ensuite, combien de temps dure la phase où on est en manque? Ça dure pas 6 mois. Si on la passe.
Exactement. C'est très vite éliminé par le corps, la nicotine. Oui. C'est pour ça qu'on va fumer plusieurs clopes dans la journée. Hein. C'est pour avoir un taux de nicotine dans le sang qui reste stable. Mais après, effectivement, les premiers jours, c'est le plus difficile, on va dire. Mais ensuite, il faut pas recraper. Il faut pas se dire, ça va, je vais reprendre. Parce que ça relance, en fait, la demande à la nicotine du cerveau.
Est-ce que vous pensez qu'une meilleure prise en charge, je ne sais pas combien s'élève la prise en charge de l'arrêt du tabac, mais est-ce que vous pensez peut-être une meilleure prise en charge? Parce que ça, c'est toujours pareil. Le gouvernement va dire, on n'a pas d'argent. Je préfère payer 12 patchs à un mec que de lui payer, comme le disait
justement. Je veux dire aussi qu'il y a une perte de liberté. On fume depuis l'Antiquité. C'est quand même incroyable que maintenant, sous couvert de prix ou d'expertise, comme Vincent tout de suite au téléphone, on culpabilise les gens. On a quand même le droit de faire ce qu'on veut.
Mais oui, mais c'est
qu'on avait fait la révolution française pour mettre liberté sur
les frontières. Mais dans ces cas-là, tu payes tes soins tout seul.
L'élasticité du prix fait que de toute façon, trop d'impôts tuent l'impôt. On augmente tellement le prix que les ventes stagnent. Le prix en France est devenu hors marché au plan international. Donc, on massacre les buralistes qui sont pourtant dans une mission de service public. Et en plus, on les défend pas s'ils sont braqués par des voyous. Et vous trouvez pas qu'on peut avoir un peu de liberté, un peu d'air dans notre pays?
C'est paradoxal,
soit personnel de fumer. Pourquoi on n'a plus le droit de fumer?
Non, on a le droit de fumer, mais tu prends ton risque.
T'es ok pour enlever l'allocation rentrée scolaire à des gamins, mais par contre t'as aucun problème à payer toutes les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc.
Qui n'a strictement rien à voir, je te rassure.
C'est de l'argent que tu dépenses quand même.
Faut pas culpabiliser sous prétexte que les gens peuvent tomber malades avec le.
Bah si, puisque la culpabilité,
ça m'a fait gagner
des points de vie, moi, d'arrêter de fumer. C'est pas quelque chose de bien qui font les gens.
On peut laisser la liberté aux fumeurs.
Donc tu payes tes soins comme un grand. C'est ta liberté.
Je voudrais que Vincent intervienne.
Tu dois payer les conséquences de tes actes.
Allez-y, Vincent.
C'est très intéressant le terme de culpabilité, parce que moi, quand je soigne un patient, j'essaye de le déculpabiliser. En fait, il a été piégé par l'industrie du tabac. Il a commencé jeune, comme Olivier, autour de 15 ans, parce que ça faisait cool. C'était le personnage Marlboro,
cowboy.
Et ensuite, la nicotine a œuvré et la personne pense qu'elle est libre. Mais en fait, elle n'est pas libre, c'est son cerveau qui contrôle ses envies, ses pulsions. C'est des pulsions.
Alors on va aller où avec cette société? Qu'est-ce qu'on aura encore le droit de faire?
Mais on a le droit de fumer. C'est
en bonne santé.
Ça coûte plus cher. C'est tout. Hein.
Alors, attends, Vincent, je voudrais qu'on écoute David qui est avec nous, qui est buraliste, parce qu'il y a tu as attiré l'attention sur les buralistes, parce que il y a une étude qui montre que grosso modo les achats ont baissé de plus de 20% chez les buralistes, Seulement, les achats de contrebande ont augmenté de plus de 20% aussi. Tu vois, il y a une espèce de principe de vase communicant. C'est David qui est avec nous. Il est dans le Var. Bonjour, David.
Oui, bonjour à tous.
Ça a quelle incidence pour vous, alors, justement, l'augmentation des prix du tabac, David?
Bah, déjà, on est déjà hyper taxé. Enfin, le tabac, il y a 80-85% des taxes qui vont directement à l'État. Nous, à chaque fois qu'il y a une augmentation, alors certes, on a l'impression qu'il y a moins de fumeurs parce que le taux de tabac vendu en France baisse. Mais malheureusement, les gens se tournent vers les réseaux sociaux, sur la contrebande, sur la contrefaçon. Et donc, c'est un faux problème. Il n'y a pas moins de fumeurs en France, mais on taxe toujours le même métier.
Et on vous empêche de gagner votre vie.
On nous empêche.
Normalement, la drogue, c'est interdit. Hein.
Ah oui, mais sauf que le gouvernement dit que c'est il faut arrêter de fumer.
Parce que c'est le gouvernement.
Il te met même des paquets neutres. On te écrit dessus que ça augmente le risque d'impuissance, que ça augmente.
Je te vends quelque chose qui te tue.
Et fumes-tu. Et donc, je te vends quelque chose qui te tue et je prélève 15 ou 20 milliards dessus, quoi.
D'accord. Et en plus, ça veut dire que le mettre à 20 euros, je prélèverai encore plus. Mais c'est énorme. Je te vends quelque chose qui te tue. Je t'aspire tes données parce que t'es obligé de passer par Internet et je les livre à des hackers. En fait, c'est dingo. Imaginez si les Français appliquaient ce que l'État applique aux Français. D'accord. Ah bah ça serait le folklore.
David,
voilà. Et le problème, c'est qu'on a bien vu pendant le Covid, lorsqu'il y a eu les fermetures des frontières, le tabac avait repris énormément en France et c'était encore plus d'argent qui rentrait dans les caisses de l'État. Que le tabac à la rigueur soit taxé, c'est pas un souci. Là, on en parle pour les incendies. Je suis d'accord. Il y a un mégot sur cinq qui est balancé par la fenêtre. C'est honteux, c'est un scandale. Mais c'est plus de la prévention, du discours qu'il faut apporter. C'est là, via des messages, mais c'est pas non plus en taxant encore un métier qui a perdu beaucoup de buralistes, alors qu'on est quand même un commerce de proximité.
David, je vous remercie d'avoir été dans les GG. Je salue tous les buralistes qui nous écoutent. Effectivement, est-ce que le tabac plus cher, c'est
légaliser le cannabis,
est-ce que c'est l'arrêt plus rapide? Mais là, c'est aussi, il y a que dans les grandes gueules qu'on en débat, hein, parce que de toute façon, au niveau du pouvoir public,
pourquoi pas te droguer? Bah, elle est bonne celle-là.
Pourquoi pas?
C'est la liberté.
Non, c'est pas la liberté, c'est puisque la répression ne marche pas.
Oui, mais
un autre moyen. Est-ce que c'est une bonne chose, ces augmentations? Vous dites non à 54,1%.
Mais oui, les gens, ils veulent pas.
Allez, dans un instant, on va s'intéresser à un prochain candidat, Raphaël Glucksmann. Oui. Normalement, il se déclare dimanche. Est-ce que la gauche a besoin de la candidature de Raphaël Glucksmann? C'est au 32-16 qu'on en parle.
On va s'évanouir.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Prendre la parole avec les GG, avec les grandes gueules comme notre ami pharmacien tabagologue ou buraliste qui était avec nous, bah vous avez le 32-16 hein, qui est à disposition. Emmanuel Devilliers, Zora Vitant, nous sommes avec Laura Vartan-Martinez. On va parler de, normalement dimanche, Raphaël Glucksmann annonce sa candidature pour place publique, candidature pour la gauche, hors primaire. Est-ce que la gauche a besoin de la candidature de Raphaël Glucksmann? C'est un personnage atypique, c'est vrai, c'est un philosophe, c'est pas un apparatchik, hein, Raphaël Glucksmann. Et il a émergé là, notamment lors de la campagne pour les élections européennes. Il est assez charismatique, il aime les plateaux télé, il se positionne hors des partis. Pour autant, est-ce que ça va faire de lui un bon candidat à l'élection présidentielle? On verra au fur et à mesure de la campagne. Il faudra qu'il ait ses 500 signatures. Ça aussi, il va falloir aller à la pêche aux élus, expliquer quel est ton projet. Et on sait que les élus peuvent se dire, attendez, Glucksmann, moi, le Parisien des plateaux, je lui donne pas ma candidature, même si je suis quelqu'un de gauche. C'est vrai que, est-ce que la gauche a besoin de la candidature de Raphaël Glucksmann? Alors, ce matin, on disait, on vannait en disant, est-ce qu'il fera, s'il a 600 signatures, est-ce qu'il fera mieux ou moins bien qu'Anne Hidalgo? Et c'est 1,75. Sachant qu'il y a un François Hollande aussi qui est en embuscade, il y a le Parti Socialiste qui va organiser ses primaires, les modalités seront connues la semaine prochaine pour des primaires qui seront sûrement organisées en octobre. Bref, c'est une équation compliquée pour Raphaël Glucksmann. La dernière fois qu'on a entendu parler de lui, c'était avec Léa Salamé, sa compagne, tout le monde le sait, qui officie aux 20h de France 2. D'ailleurs, s'il annonce sa campagne un petit peu plus tôt dimanche, c'est pour faire en sorte que ça arrange Ilia Salamé, qu'elle ne fasse pas sa rentrée au JT de France 2 pour s'arrêter quelques jours après. Bref, est-ce que la gauche a besoin de la candidature de Raphaël Glucksmann?
Alors, il est Emmanuel rare que Deville. Tu énonces des vérités discutables, mais là, tu viens de dire que c'est pas un apparatchik. Ben quand même, son seul fait d'armes professionnel, c'est d'avoir travaillé, tu vas prolonger mon propos, avec cette fameuse république d'ex-URSS. Oui,
et Géorgie.
Voilà. Donc, c'est un apparatchik. C'est un apparatchik de l'ex-URSS. Et sur le plan professionnel et politique, il n'a pas prouvé grand-chose. Alors, il a un certain charisme, il faut être objectif, il est très grand, il est posé, il est apprécié d'ailleurs par des gens qui sont pas forcément exclusivement de tendance socialiste, mais il n'a jamais été candidat au suffrage universel direct, sauf en scrutin de liste.
Oui, avec les européennes.
Voilà, ce qui est évidemment très facile dès qu'on est en position éligible. Et dans son camp, il ne peut pas faire l'unanimité parce qu'il y a d'autres candidatures qui émergent, une émulation très forte. Évidemment, l'ancien président François Hollande. Et de toute façon, cette ligne politique, on la voit mal pouvoir accéder au second tour, compte tenu du centre et du centre droit. D'autres candidats comme Édouard Philippe notamment, et compte tenu évidemment de la locomotive Jean-Luc Mélenchon. Puisqu'il n'y aura, il faut ne jamais l'oublier, que deux places au second tour.
Laura.
Dans un sens, je suis contente que la gauche s'éclate, parce que du coup, ça va être plus facile pour la droite de passer. Mais je vais faire un reproche à la gauche et je vais faire exactement le même à la droite. Moi, quand je vois la quantité de personnes qui veulent se présenter aux élections, qui y pensent ou qui se présentent officiellement, je me dis, mais il n'y en a aucun qui pense aux Français.
C'est-à-dire... Bah, si, avec son programme.
Non,
il pense que son programme ou ses idées sont les meilleures pour le pays.
À quel point ces personnes sont hautaines dans ces cas-là? Parce que je ne vois pas comment une personne... Parce que maintenant, tu regardes toutes les têtes politiques de ce pays, chacune veut être présidente. Ça veut dire qu'il n'y en a plus aucune qui pense et réfléchit en communauté. On demande, on le voit, l'individualisme français est en train d'être tué. Ça nous tue le pays. On ne réfléchit plus ensemble, on ne pense plus ensemble, on ne travaille plus ensemble. Et on voit ce que ça a donné. C'est pas glorieux. Moi, ce que j'aimerais, à un moment donné, c'est que les têtes, qu'elles soient de gauche, parce que honnêtement, je commence à en avoir marre de pas avoir une vraie gauche. Je suis désolée. Mais quand on voit que le petit peuple est massacré, est oublié, et qu'à chaque fois qu'on en parle, c'est juste pour s'en servir à dessein politique, ça me fatigue. Le peuple, les travailleurs, les petits, je pense au nord de la France, je pense à la Creuse, je pense à tous ces pays et ces territoires ruraux de la France qui sont matraqués et oubliés, il n'y a plus personne pour les défendre. De la même manière que les entreprises, on se sert de nous uniquement à dessein politique. Je trouve qu'il n'y a plus de réelle réflexion. Regarde, il n'y a plus de... Dans les programmes, il n'y a rien qui sort d'exceptionnel. Ça ne réfléchit plus. Maintenant, chacun est en train de se battre et de réfléchir. On en parlait en hors antenne. La campagne présidentielle va être ignoble. Il ne va y avoir aucun débat d'idées. Il va y avoir aucun débat de fond. Ça ne va être que des attaques.
Non. Il aura lieu le débat de fond. Parce que déjà, il aura lieu parce que tu as deux programmes aujourd'hui qui sont clairs, nets. C'est celui du Rassemblement National et celui de la France Insoumise. Ce sont les deux programmes où tu sais au moins quelle direction ils veulent donner au pays. Après, tu prends ou tu prends pas. Comme disait l'autre, tu achètes ou tu achètes pas. Mais là, au moins, c'est net. Après, c'est pour les gens comme Raphaël Glucksmann, Édouard Philippe et Gabriel Attal, ou si tu veux, ce sera peut-être, leurs idées seront à la marge. Il faudra vraiment regarder ce qui les distingue les uns des autres, quoi, Zora Bitant.
On voit bien qu'aujourd'hui, les deux extrêmes qui polarisent le débat et qui, c'est un peu comme les... Voilà, c'est autour d'eux que s'agrège la mise en place des autres. Concernant Raphaël Glucksmann, qui est plutôt un garçon bien dans sa tête et qui dit pas que des conneries, qui est plutôt intéressant, même si moi je vais pas pister son parcours de A à Z, mais voilà, dans la galaxie des apparatchiks de gauche, c'est pas le pire. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez droit dans ses idées, qu'on les partage ou pas. C'est pas un agité, c'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un de fou furieux, contrairement à d'autres qui ont bradé avec la NUPES, le NFP, enfin bon, ceux qui sont allés à la soupe de Mélenchon et qui savent plus où ils habitent et qui vivent qu'en soumission à d'autres. Donc voilà, aujourd'hui la difficulté est la suivante, c'est que les Français on souffre tellement entre guillemets, même si le mot est fort dans ce contexte-là, souffrent tellement, sont tellement désespérés, dépassés, dépités, méprisés, assassinés. Là, l'auto-entrepreneur vient de manger encore 1,6, je crois, en plus. Bon, bref, les entreprises n'en peuvent plus. Les décisions pleuvent, les impôts, les taxes, sans que les services publics ne marchent correctement. Bon, bref, il y a du ressenti et il y a de la réalité. Mais n'empêche que le ressenti, il est comme celui-là. Et donc, aujourd'hui, vous arrivez avec une petite offre comme celle de Glucksmann, qui est intéressante. Mais en fait, c'est une offre pchit. Elle va rien faire, elle produit rien. Et toute la gauche, avec le centre, alors le centre, n'en parlons pas, parce que le centre, c'est la continuité.
Je vannais sur le score d'Anne Hidalgo, mais il est à 8-10% des intentions de vote.
Oui,
là,
mais,
aujourd'hui,
mais ça change rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que l'offre peut être, entre guillemets, commune et mutuelle? Avec une vraie offre, alors honnêtement, pour être sur les réseaux sociaux et pour lire un paquet de Français, le centre, faut surtout pas leur en parler, c'est épidermique.
Aujourd'hui, les deux offres claires, les deux programmes les plus clairs, c'est la France Insoumise et le Rassemblement National.
D'accord, les gens veulent du radical.
Clair dans l'obscurité quand même.
Oui, exactement.
Ce qu'ils proposent, mais.
Exactement, parce que les gens veulent du radical, parce qu'en fait, si tu leur proposes un remède de perlimpinpin, et que tu leur dis, bon, alors je vous explique. Pour vous redonner du pouvoir d'achat, alors...
Et comme si c'est la présidentielle qui allait donner de l'argent sur les comptes.
Exactement.
C'est totalement illusoire.
Et en plus, le système, la technostructure et la bourgeoisie d'État a tellement vampirisé l'espace que celui qui va devenir président ou celle qui va devenir président, il va devoir composer avec les centaines de milliers de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, de ceux qui sont à tous les postes et qui diront, non, ça je le fais pas. Non, ça c'est interdit. Non, ça on le fera pas. Non, ça c'est anticonstitutionnel. Ok, t'es président, pourquoi? Bah, président juste pour le titre. En fait, il est bloqué ce pays parce qu'il faut tout le réformer du point de vue de ses institutions. Donc, la gauche, entre Hollande, Glucksmann, on sait pas si... Non, Olivier Faure, il va certainement s'allier avec LFI rapidement, lui. On le connaît, c'est un traître depuis toujours. La gauche va avoir du mal. Alors, peut-être que Hollande, avec un goût de nostalgie, parce qu'ils ont... En France, c'est comme ça. On déteste quelqu'un. Une fois qu'il est plus là, on l'aime parce qu'on déteste celui qui est en place, encore pire. Enfin, ça, c'est un peu très français.
Mais justement, on a posé la question sur les réseaux sociaux, Raphaël Glucksmann, est-ce que la gauche a besoin de cette candidature? Vous dites non à 81%. Marc, à 18%, tu te qualifies pour le deuxième tour. Hein. Et dans un instant, on va continuer d'en discuter avec Adrien Clouet, il est député de la France Insoumise. Il sera dans son face au GG.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.